Le journal Adia Tupoukou.
Merci de vous joindre à nous tout de suite les titres de cette édition. Après la mise en garde sur toute récidive de la part des milices en Ituri, les FRDC passent à l'acte. Ils se sont affrontés hier avec les miliciens du FRPI de Cobra Matata à Bukiringi et Aveba. Des explications du commandant des opérations des FRDC dans ce journal. 3 morts et 8 blessés, tel est le bilan provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattue hier sur la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. D'importants dégâts matériels sont également signalés. Tension ce matin à Lubumbashi, des milliers de creuseurs protestent contre la décision de l'entreprise minière Chemaf de les faire partir de la mine de Kalukuluku après des éboulements hier soir. Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et commençons en Ituri où l'on signale des accrochages hier soir entre les éléments du 44e bataillon intégré FRDC et les miliciens des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI du chef de guerre Cobra Matata. Les échanges des tirs ont eu lieu entre la localité de Bukiringi et Aveba à environ 45 km au sud de Bunia. Ces affrontements ont fait 2 blessés du côté des FRDC. Le bilan du côté des miliciens reste inconnu pour l'instant. Je vous propose d'écouter les explications du général de brigade Boyama Siona, commandant des opérations des FRDC.
Il nous a été effectivement signalé qu'il y avait des barrières qui étaient érigées par les miliciens de Cobra Matata entre Bukiringi et Aveba. Et l'ordre a été donné au 44e bataillon qui est installé à Boga et à un bataillon de la 6e brigade qui est installé à Aveba pour nettoyer un peu la zone et permettre à la population de circuler librement. Il s'est fait malheureusement que les éléments du 44e bataillon étaient tombés dans l'embuscade ou en accrochage avec ces éléments de Cobra Matata.
Et est-ce que vous pouvez nous donner les bilans de ces affrontements?
Du côté ami, nous avons eu 2 blessés qui ont été évacués grâce à la MONUC qui sont à l'hôpital des Marocains. Du côté ennemi, les dégâts sont très importants et je ne suis pas là pour faire l'apologie des morts, mais je pense que c'est un message fort pour dire à ces gens-là de mettre fin à leurs aventures parce que les pertes qu'ils connaissent risquent de s'aggraver aussi longtemps qu'ils continuent à provoquer les FRDC.
Rappelons qu'il y a 2 jours, le général Boyama avait promis d'utiliser la force en cas de récidive des milices après leur accord de trêve d'il y a 2 mois. Dans le Nord Kivu, c'est la clôture ce vendredi 15 septembre à Rumangabo, à une 50aine de kilomètres au nord de Goma, de la 3e session de brassage militaire depuis la création de ce centre militaire. Au moins 4000 soldats issus des différentes ex-composantes de l'armée nationale et qui constituent la nouvelle 14e brigade d'infanterie intégrée vont sortir de ce centre après 6 mois de formation. Les cérémonies de clôture se déroulent en ce moment même à Rumangabo, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires congolaises et étrangères. Retrouvons en direct justement de Rumangabo, Gisèle Cage.
Bon, il faut dire que plus de 4000 militaires issus de différentes composantes, majoritairement de l'ex-FRDC, sont déjà alignés ici à Rumangabo. La cérémonie proprement dite, fonctionnant à la fin de cette troisième session de brassage, n'a pas encore commencé, mais tous les dispositifs sont déjà pris. Plusieurs autorités militaires que civiles du Nord Kivu sont déjà sur place et l'on attend que l'arrivée du ministre congolais de la Défense Adolphe Onusumba et son homologue sud-africain. Il faut dire aussi que les Sud-Africains ont donné le rapport dans la réhabilitation des bâtiments abritant ce centre de brassage de Rumangabo. Et il faut également dire que c'est la 14e brigade intégrée qui va sortir aujourd'hui de ce centre. Les 4000 militaires issus donc de cette brigade nouvellement intégrée ont passé plus de 5 mois de formation au lieu de 45 jours prévus. Ces retards ont été occasionnés notamment par le manque de logistique nécessaire selon les responsables militaires de la 8e région militaire. Pour l'instant, on ne sait pas encore où et quand cette brigade nouvellement brassée sera déployée. Depuis le centre de Rumangabo, Gisèle Cage pour la Radio Okapi.
Justice. Au Kasaï oriental, le tribunal militaire vient de condamner à 11 mois de servitude pénale le chauffeur policier, auteur de l'accident qui avait causé la mort en novembre dernier du président de l'ONG Solidec, Solidarité des ONG pour la démocratie au Kasaï. Le policier devra dédommager solidairement avec l'État congolais, la veuve et l'ONG de droits de l'homme. Tel est le verdict prononcé mercredi soir par l'auditorat militaire dans ce procès qui opposait la police nationale congolaise à l'ONG Solidec. Le point avec Emmanuel Elamegi Wakabedi.
340 jours de servitude pénale, c'est la peine infligée au chauffeur de la Jeep de la police nationale congolaise qui avait causé la mort à Polycarpe Poyingongo, président de l'ONG Solidec K, au mois de novembre de l'année dernière en Bouche-Maille. En solidarité avec l'État congolais, le prévenu est aussi condamné à une amende et des dommages et intérêts de l'ordre de 150 000 $ à la veuve et 5 000 $ américains à l'ONG Solidec K. Partielle satisfaction des avocats de la partie civile, Maître Charles Bassekaï, qui reconnaît quand même le bon déroulement du procès, déclare n'avoir pas obtenu la totalité des frais exigés, soit 1 000 000 $ américains pour la succession du défunt. Reste maintenant à savoir comment ce montant sera payé aux bénéficiaires. Rappelons que Polycarpe Mpoyingongo, président de l'ONG de défense des droits de l'homme Solidec K et chef de travaux à l'ISP de Mbujimaï, avait été tué lors d'un accident de circulation par une Jeep de la police au mois de novembre de l'année dernière. De Mbujimaï, Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Radio Okapi.
Quittons le Kasaï oriental pour le Maniema, précisément à Kindu, où la coordination provinciale de la CONADER organise une semaine de démobilisés. Objectif, tenter d'obtenir une cohabitation pacifique entre les ex-combattants et leur communauté. Cette semaine prévoit une série d'activités, notamment des séances de sensibilisation à la réconciliation. Sachez que les relations ces derniers jours entre les démobilisés réinsérés et les membres de la communauté sont restées tendues. Reportage de Sadala Chabani, rendu par Mathieu Ilunga.
La première séance de ce vendredi 15 septembre a concerné les communicateurs sociaux. Parmi eux, se sont retrouvés les journalistes des radios communautaires, le metteur en scène des troupes de théâtre ainsi que le griot. Dans cet appel à la bonne cohabitation pacifique, la CONADER compte sur l'apport des radios communautaires locales. Le problème, c'est que certains combattants n'obéissent pas à l'autorité civile des milliers où ils sont réinsérés. Ils préfèrent être encore considérés comme des combattants. Voilà des comportements qui soulèvent un mécontentement des communautés d'accueil. Ces relations tendues risquent d'entamer le programme de la réinsertion sociale des ex-combattants qui commençait à donner de bons fruits, a reconnu l'assistant à la sensibilisation de la CONADER au Maniema. Cette campagne à la cohabitation pacifique ne concerne pas seulement des démobilisés, mais également les communautés d'accueil. Et Kindu, Mathieu Ilunga Chambouya Monachebe, Radio Okapi.
3 morts et 8 blessés, tel est le bilan provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattue hier sur la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. À cela s'ajoutent d'importants dégâts matériels constatés dans plusieurs quartiers de cette ville. Correspondance avec Pierrot Elamegi.
Tôt ce matin, les habitants de la ville de Kananga se sont réveillés consternés par les conséquences de la pluie torrentielle d'hier. Au quartier industriel situé au nord de la ville, les toitures de 2 entrepôts se sont effondrées. Hier tard, dans la nuit, la police a retiré 2 corps dans les décombres. Ce matin, un 3e corps a été découvert. La police affirme avoir dénombré 8 blessés sur le même site. Ces personnes ont été acheminées par la MONUC vers des structures de santé. Notons par ailleurs que dans plusieurs quartiers de la ville, les dégâts sont énormes. Tels qu'au quartier Kamaï, les toitures d'une dizaine de maisons arrachées, des murs écroulés, des arbres déracinés, les routes en terre battue inaccessibles. Le même spectacle désolant est constaté dans certains coins du centre-ville. Plusieurs habitants déclarent n'avoir jamais reçu une telle pluie depuis des décennies. Les uns pensent le manque d'entretien des bâtiments qui datent de l'époque coloniale a favorisé l'importance des dégâts. Pour les autres, plusieurs maisons des Kananga sont construites sans respect des normes requises. Enfin, un dernier groupe de personnes attribue à une origine maléfique ces dégâts. Pour l'instant, les autorités de la ville se réunissent en vue de prendre des décisions à ce sujet. Et les recherches dans les décombres se poursuivent par la police et les secouristes de la Croix-Rouge afin de trouver d'autres éventuelles victimes. De Kananga, Pierrot Elamegi, Radio Okapi.
Direction Katanga avec le suivi sur l'éboulement hier de la mine de la Rwashi Mining à Kalukuluku. Le bilan vient d'être revu à la hausse. Selon la bourgmestre de la commune de la Rwashi, 2 autres corps viennent d'être retrouvés, ce qui porte à 5 le nombre de morts parmi les creuseurs. Des recherches d'autres corps se poursuivent. Colin Dumamoussampo nous en parle.
Selon Madame Stella Ilunga, bourgmestre de la commune Rwashi, un groupe de creuseurs artisanaux est arrivé tôt ce matin à la carrière de mine Pompage pour poursuivre les recherches. 2 corps ont été découverts. Les creuseurs ont réussi à faire sortir l'un des corps et l'autre est resté coincé dans la terre par une grosse pierre. Madame la bourgmestre a aussi donné une précision sur les blessés. Ils sont 14 et tous ont été amenés à l'hôpital militaire de la Rwashi. À ce nombre, il faut aussi ajouter 6 rescapés. À ce moment, les creuseurs continuent à fouiller dans les galeries de la mine Pompage pour essayer de retrouver d'autres corps. Lubumbashi, Radio Okapi.
C'est justement ces incidents qui ont poussé l'entreprise minière Chemaf à décider de faire partir tous les creuseurs artisanaux de cette mine. Mais cette décision a entraîné des contestations de la part de ces derniers. Plus de 1000 creuseurs sont d'ailleurs descendus ce matin dans les rues de la commune de La Roissie à Lubumbashi. C'est pour protester, comme je venais de vous le dire, contre cette mesure. La police est intervenue pour disperser les manifestants, mais sans succès. Bilan, 5 policiers blessés, 4 véhicules endommagés et une vingtaine de creuseurs arrêtés. Le point avec Colin Dumas-Moussonpo qui se trouve sur place.
D'après Doudou Kachongo, chef de quartier Kaloukoulouku, tout est parti d'une rumeur qui a circulé dans la carrière hier soir, selon laquelle les responsables de Chemaf ont pris une décision interdisant aux creuseurs d'accéder dans la mine Kaloukoulouku, anciennement appelée mine de l'étoile. Ce matin, des milliers de creuseurs se sont mobilisés au niveau du marché zambien pour aller dans leur lieu de travail. Mais ils ont été empêchés par la garde industrielle de l'entreprise Chemaf qui a encerclé la carrière. Le deuxième groupe de creuseurs est arrivé armé de pierres et pneus qu'ils ont par la suite brûlés. Ils ont barricadé la route, empêchant toute circulation. Une heure plus tard, la police est intervenue sans succès pour disperser les manifestants. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à jeter des pierres sur les policiers. Bilan, 4 policiers blessés, 3 jeeps de la police et celle d'une chaîne de télévision locale endommagée, 27 creuseurs arrêtés et une partie des stands du marché Zambia de la commune Rouachi incendiée. Pour l'instant, la situation reste encore tendue, nous a déclaré la dame Stella Ilunga, bourgmestre de la commune Rouachi. Lubumbashi, Colin Djuma, Moussonpo, Radio Okapi.
12h12 à Kinshasa, même heure à Matadi dans le Bas-Congo. Le guichet unique du port international de cette ville est de nouveau opérationnel. 48 heures après l'incendie qui a détruit les matériels informatiques de ce bureau, le réseau a finalement été rétabli par une équipe de techniciens de l'OFIDA. Les opérations de dédouanement ont donc repris. À Uvira, l'actualité, c'est le lancement officiel de la distribution des vivres, des semences et des boutures de manioc à 3000 vulnérables de la plaine de la Ruzizi. Cette distribution se fait par la Caritas, une structure de l'Église catholique. Selon son directeur, l'abbé Guillaume Amissi, l'aide a été apportée par le Secours catholique de la France et la distribution se déroule pendant 3 jours. Hier jeudi, les habitants de la plaine ont exprimé leur satisfaction après avoir connu plus de 6 mois d'agitation météorologique et de la mosaïque, une maladie qui s'attaque à la culture de manioc. Christian Goma.
Selon les notables contactés sur place, la perturbation climatique avait causé la famine dans les localités de la plaine de la Ruzizi, entraînant ainsi la mort de 3 personnes dans la localité de Mikamba, à 30 km au nord d'Uvira. En dehors de la sécheresse, la mosaïque qui s'est attaquée à la culture du manioc, ainsi que les dommages causés sur les cultures maraîchères par le rebelle burundais du Front National de Libération, FNL, sont les autres lots qui pèsent sur les habitants. La Caritas avait identifié quelques ménages victimes au travers les notabilités et les comités locaux paroissiaux disséminés dans la plaine. Ces 3000 ménages, estimés à 18 000 personnes, bénéficient de l'aide dans les 5 sites de Mikamba, Ndunda, Kiriama, Kamanyola, Sassira, Kiguro et Luvungi. Chaque ménage a reçu 28 mètres linéaires de titres de boutures de manioc qui peuvent résister à la mosaïque. En même temps, la Caritas devra les accompagner pendant 3 mois de la saison culturelle par une sécurité alimentaire en vivres. Le temps pour les agriculteurs de semer et de moissonner au mois de décembre prochain. Ce jeudi, à Mikamba comme à Ndunda, les habitants se sont réjouis de l'assistance, mais ils ont demandé que des mesures sécuritaires soient renforcées contre les rebelles burundais du Front National de Libération. Fistongo Mamayabala, Uvira, Radio Kapi.
Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, la Cour suprême de justice a proclamé les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle du 30 juillet qui place M. Joseph Kabila en tête avec 44,8% des suffrages exprimés, suivi de M. Jean-Pierre Bemba avec 20%. La Cour suprême de justice a confirmé les résultats provisoires annoncés le 20 août par la Commission électorale indépendante, donnant lecture des scores obtenus par chacun de 33 candidats inscrits au premier tour. Nous recevons dans ce studio René Capita. Bonjour.
Bonjour Adia.
Vous revenez justement de la Cour suprême de justice. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails sur ces arrêtés?
Effectivement, la Cour suprême de justice vient de rendre 2 arrêts, non pas un. Le premier concerne donc la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Donc, comme tu l'as dit, ces résultats confirme en fait les résultats publiés par la CI, c'est-à-dire Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba arrivés en tête sans réaliser la majorité absolue, se représenteront donc au deuxième tour. Par ailleurs, la Cour a rendu un deuxième arrêt. Ce deuxième arrêt en fait concerne la requête de la prolongation que la CI a introduit le 6 septembre dernier à la Cour suprême de justice. Donc, selon cette requête, la CI fixait, disons, au 29 octobre le deuxième tour de la présidentielle, alors que la Constitution fixait l'organisation de ce second tour 15 jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Donc, pour ce dernier, la Cour suprême a jugé recevable la requête de la CI. Et de ce fait, elle prolonge de 50 jours l'organisation du deuxième tour de la présidentielle. Et ce délai entre en vigueur donc à partir de demain, c'est-à-dire au lendemain de la publication des résultats définitifs. Et selon donc la Cour suprême, cette décision est fondée sur le fait, disons, sur les contraintes expliquées par la CI. Donc, il s'agit des contraintes liées à l'organisation et aux problèmes logistiques liés effectivement à l'organisation de ces élections.
Est-ce que le 29 octobre, le deuxième tour des présidentielles auront lieu ou pas?
Cette décision revient donc à la CI parce que la Cour lui donne 50 jours et c'est à la CI maintenant de confirmer la date du 29 octobre.
René Capita, je vous remercie beaucoup.
Merci.
C'est donc par vous que nous allons mettre un point final à cette édition. Merci à tous nos auditeurs de l'avoir suivie.